Test 7. Épreuve orale collective.
Ce soir, vous nous emmenez, pas loin de chez vous, au cimetière du Père-Lachaise, pour nous raconter une histoire qu'on a quand même du mal à croire.
Oui, mais alors avant de vous la raconter, cette histoire, alors en tout point incroyable, ça je vous suis Arnaud, on peut déjà se demander d'où viennent ces récits, tantôt racontés à voix basse, tantôt claironnés dans les événements mondains, ceux que l'on appelle désormais des légendes urbaines. Alors ces légendes urbaines, elles dessinent surtout une carte de nos fantasmes et de nos névroses. Mais s'il est souvent difficile d'en repérer la source, on connaît aujourd'hui la première légende urbaine française. Je suis allée retrouver Stéphanie Saugé pour qu'elle nous la raconte. Stéphanie Saugé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'université de Tours et vous avez travaillé sur l'histoire qui est à l'origine de ce que l'on appelle une légende contemporaine, expression que l'on emploie depuis 1894, pour évoquer un folklore moderne, un phénomène culturel digne d'étude. Alors peut-être pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots de quoi on parle? Quelle est cette légende?
Alors en fait, le point de départ de la conceptualisation de la légende urbaine, c'est un canular, essentiellement d'origine médiatique, de diffusion médiatique. L'histoire est très simple à raconter. Une princesse russe est morte il y a 5 ans. La date est toujours indéterminée. Elle a laissé une fortune colossale, dont les chiffres peuvent varier, à la personne susceptible de conserver son cercueil de verre dans son mausolée au cimetière du Père-Lachaise pendant 1 an, plus exactement 365 jours et 366 nuits.
Donc c'est-à-dire qu'elle demandait à quelqu'un de veiller son cercueil?
C'est ça. Pendant 1 an, la personne devait rester à ses côtés. Alors en fonction des articles de presse, c'était plus ou moins détaillé. La personne pouvait rester 1 heure à l'extérieur, devait lire mais pas faire une autre activité, être à son service pendant 24 heures sur 24 et une année entière.
Ce qui est étonnant, c'est que suite à ce canular, à cette demande, on a retrouvé des lettres de candidats.
Voilà, c'est ça qui est formidable. Rarement on a des traces de réception et de lecture et d'appropriation de cette lecture. Ces lettres, on les découvre aujourd'hui encore aux archives départementales de Paris, dans les cartons de la conservation du cimetière du Père-Lachaise. Il en reste 63, mais en réalité, le nombre de lettres envoyées a probablement été bien supérieur, se compte probablement en milliers. Ces lettres viennent de partout dans le monde. Majorité d'entre elles provient des États-Unis et du Canada, mais on a aussi de nombreuses lettres européennes, Belgique, Italie, actuelle Allemagne, voilà. Donc c'est une légende qui a circulé internationalement, et ce qui est très intéressant, ce qui fait qu'on a pu théoriser à partir de ce qui n'aurait pu rester qu'un canular la notion de légende contemporaine, c'est que en fait elle a perduré très longtemps. On sait quand elle commence à faire vraiment parler d'elle, 1893. La dernière lettre conservée dans les cartons du Père-Lachaise, c'est 1937. Mais en fait, les sociologues qui ont travaillé sur ce canular et cette légende urbaine ont entendu parler de lettres envoyées jusque dans les années 1980. Et aujourd'hui, il y a toujours des visites au Père-Lachaise où on s'arrête devant certains tombeaux, où on raconte à nouveau cette histoire.
Alors, en plus de la longévité, pourquoi ce récit-là est un cas d'école de ce que l'on appelle donc aujourd'hui des légendes urbaines?
Parce qu'en réalité, celui qui la théorise en premier, Frédéric Ortoli, s'intéresse aux mythes. Et au 19e siècle, on a tendance à considérer que les mythes sont des survivances du passé. Sa grande nouveauté, c'est de se rendre compte que nos époques contemporaines génèrent et fabriquent de nouveaux mythes qui, un peu comme un rêve, fait qu'on ne reconnaît plus forcément exactement de quoi parle l'histoire, mais nous parle profondément de nous. Et donc, les mythes contemporains sont un peu des miroirs qui nous sont renvoyés et qui disent quelque chose, mais jamais de manière directe, de nous, de nos sociétés.
Oui, parce qu'il y a toujours un peu de vrai dans ces légendes urbaines. C'est pas que un canular, c'est pas que du faux.
Voilà, c'est un mélange de vraisemblable et de faux, et on ne sait pas exactement les proportions de la recette. Donc, les lettres qui sont envoyées commencent toujours par demander s'il y a quelque chose de vrai dans cette histoire, et font confiance à l'administration pour leur dire s'il y a une vérité, et ils ont envie d'y croire, c'est pour ça qu'ils écrivent, pour se porter candidat.
Alors il y a un grand rôle de la presse dans ces légendes urbaines, vous pouvez peut-être nous en dire plus?
En fait, cette légende urbaine, on considère qu'elle a probablement été principalement fabriquée par la presse, à une époque où la presse est en plein développement. Ce qu'on appelle une mystification, une fumisterie, en tout cas en France. Et puis, lorsqu'elle commence à être fabriquée aux États-Unis, ça prend une autre dimension. Mais on est vraiment dans la fabrique du journalisme, d'un journalisme qui a besoin de s'alimenter au jour le jour, qui a besoin d'avoir de la nourriture quotidienne, et pas seulement des actualités, des informations, d'autres petits faits, divers ou non, susceptibles de capter l'attention, parce que les entreprises de presse sont des entreprises et qu'elles ont besoin de faire vendre, et que ce type d'histoire en fait a le grand bénéfice d'être facile à raconter, facilement mémorisable et d'attirer l'attention.
Et touche à quelque chose d'universel, on parle de la mort et de la solitude, alors ce sont des thèmes j'imagine qui résonnent chez tout le monde.
Oui, il y a beaucoup de canulars qui parlent de fausses morts, mais qui en général sont oubliés dans les 8 jours. Ce qui est étonnant avec cette histoire-là, c'est qu'elle parle effectivement d'une histoire qui peut paraître très glauque et même abjecte. Imaginez surveiller le cercueil d'une personne morte il y a 5 ans, voilà, c'est ce que Julia Kristeva considère être le sommet de l'abjection.
Un cercueil de verre, on l'a peut-être pas dit.
Un cercueil de verre, effectivement. Donc, on imagine tout de suite que ce cercueil est transparent, c'est peut-être là où on a tort. Mais voilà, c'est cette idée de ce contact prolongé, accepté, consenti, avec un cadavre.
Contre de l'argent.
Contre de l'argent, parce que la majorité des lettres le disent bien, c'est l'appât du gain qui attire les auteurs de lettres.
Votre ouvrage, Le cercueil de verre du Père Lachaise, vient de paraître aux éditions du CNRS. On retrouve toute cette histoire et toute l'analyse de ce qu'est une légende urbaine. Merci beaucoup Stéphanie Sauger.
Et merci à vous Marie Sorbier.